L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Alors merci d'être avec nous Lionel pour reprendre cette fresque
des
arbres.
Merci à toi toujours de me recevoir, c'est super sympa.
Mais on adore te recevoir et surtout qu'aujourd'hui tu vas nous parler d'un arbre, d'un résineux que l'on connaît bien sur le plateau, il s'agit de l'épicéa.
Mais voilà, tout à fait, on va continuer ensemble dans notre odyssée des espèces forestières. Cela est très important pour les forestières et forestiers de bien connaître le nom des arbres et de savoir les distinguer, qu'ils soient encore debout, seuls, ou en peuplement, ou bien coupé à terre. Malheureusement, en ce moment, avec le vent, beaucoup sont à terre, en grumes, billons, etc. Pour éviter de les mélanger dans les produits, car chaque essence peut correspondre à un produit différent. Comme je le dis souvent, les arbres, pour nous, les forestières, forestiers, sont nos principaux collègues de travail. On travaille vraiment avec eux. Il est donc primordial de savoir comment ils s'appellent, de savoir comment orthographier correctement leur nom. C'est quand même plus crédible auprès des personnes qui attendent de nous d'être des spécialistes, et puis de connaître leur tempérament, car oui, les arbres adoptent des attitudes particulières selon leur environnement. On parle d'autécologie, leur propre écosystème favorable à leur croissance. Tout cela est présenté au travers de monographies, et c'est ce que nous faisons ensemble en fait déjà depuis 3 chroniques. J'ai appris à faire cela lorsque j'étais en BEP à Crony avec ma prof de Botta, Madame Peggy Ottinger, et je le reproduis chaque année auprès de mes stagiaires. Je la salue d'ailleurs. Et puis, c'est incontournable. Alors aujourd'hui, on va parler d'une essence bien représentée sur le territoire, et pour ne pas faire de jaloux, vous l'aurez bien compris, je veille à alterner à chaque chronique un feuillu et un résineux. Ayant donc parlé du châtaignier la semaine dernière, enfin il y a maintenant plus d'un mois, je vais donc aujourd'hui vous parler non pas d'un résineux, mais de deux résineux qui poussent sur la montagne Limousine. J'ai nommé les épicéas communs et les épicéas de Sitka. L'origine du nom picea est liée à une de ses anciennes productions, sa résine, ou pois, qui en latin se dit picem, qui était récoltée et vendue en pharmacie sous le nom de pois de Bourgogne sous forme de cataplasme pour soigner les affections respiratoires et soulager les rhumatismes douloureux.
Alors tu nous parles des épicéas communs et des épicéas de Sitka, mais quelle est la différence? Comment quelqu'un comme moi, qui ne s'y connaît pas forcément en forêt, peut les reconnaître facilement?
Eh bien Maëline, je t'ai ramené pour cela des rameaux pour observer les différences, car c'est bel et bien un jeu des différences auxquelles il faut jouer.
Ça sent bon.
Voilà. À ce niveau, il faut déjà savoir distinguer un épicéa d'un sapin. Et pour ça, il faut vraiment prendre son temps, apprendre à observer et se baser sur au moins 3 critères de reconnaissance objectifs. Par exemple, les feuilles ou aiguilles, dans notre cas, sur les épicéas, et bien les bourgeons aussi, par exemple, et les fruits, ici des cônes pour les gymnospermes, appelés aussi résineux. Un épicéa aura une aiguille à section quadrangulaire, donc on voit 4 angles sur la feuille, alors que chez les sapins, l'aiguille est bien aplatie. Les cônes, ce que les amateurs appellent pommes de pin, sont pendants chez les épicéas, alors qu'ils sont dressés sur les rameaux chez les sapins. Et enfin, l'écorce est écailleuse sur les rameaux d'épicéas, alors qu'elle est plutôt lisse chez les sapins. Une fois qu'on sait faire la différence entre les sapins et les épicéas, on peut distinguer l'épicéa commun de l'épicéa de Sitka. À la couleur, le commun est bien vert forêt avec des petites aiguilles et le Sitka a des reflets bleu argenté avec des aiguilles très piquantes. Ah, c'est vraiment, les bûcherons, ils n'aiment pas aller travailler dans les épicéas de Sitka parce que c'est assez douloureux, quoi. Ça pique bien fort au niveau des bras, surtout quand on travaille les manches relevées. Et c'est souvent qu'on travaille les manches relevées. La taille des cônes nous donne aussi une indication. Ils sont très grands chez les communs, de 10 à 15 cm de long et à écailles coriaces, alors qu'ils sont tout petits chez les Sitka avec des écailles souples.
Ok, donc moi je connais bien l'épicéa commun. Il me semble qu'il est d'ici celui-là, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que l'épicéa de Sitka aussi ?
Eh bien, lui, l'épicéa de Sitka, il n'est pas d'ici, contrairement à l'épicéa commun. Le commun est le géant de nos forêts montagnardes européennes. Il trouve ses conditions de croissance dans la zone inférieure de l'étage subalpin, au-dessus des forêts montagnardes de hêtres et de sapins blancs, et au-dessous de celles proprement subalpines composées de mélèzes et de pins. Moins exigeant en eau que le sapin, l'épicéa commun demande cependant une suffisante humidité atmosphérique et des sols frais arrosés par des pluies fréquentes. L'épicéa de Sitka, lui, nous vient directement d'Alaska, de l'île de Sitka dans l'archipel Alexandre. Introduit en Europe vers 1830, cette essence s'est révélée être parfaite pour le reboisement car très précieuse sous les climats plus humides de notre pays. Il redoute les sols secs et les étés sans pluie. Ici, sur le plateau de Millevaches, on les a un peu trop souvent utilisés dans le boisement, dans les fonds, les combes, les tourbières, ce qui aujourd'hui, par rapport aux enjeux de la préservation de l'eau et des bassins versants, ne peut plus se faire, car cela assèche trop rapidement les zones humides importantes à préserver.
Et donc, au niveau des usages et des débouchés, quelle est la différence entre ces deux espèces ?
Eh bien, Pierre Liotagui, dans son ouvrage « Arbres, arbustes et arbrisseaux », dont je recommande ici l'acquisition pour tout passionné des arbres, écrit que la croissance de l'épicéa de Sitka est très rapide, plus rapide même que celle de l'épicéa commun. En plaine, entendez de 0 à 200 mètres, le Sitka est mieux adapté et donne un bois de qualité sensiblement supérieur à celle du bois de l'épicéa commun. Par contre, dès l'étage collinéen de 200 à 600 mètres, voire plus, l'épicéa commun produit un bois à grains plus fin que son cousin, ce qui est notamment très recherché dans la lutherie. Souvenez-vous, on en avait parlé avec Mathieu dans l'onde du bois numéro 12, et celle qui a été rediffusée la semaine dernière, lorsqu'on avait été le voir à son atelier. L'épicéa commun, c'est le roi des forêts de montagne et des bois de résonance. En fait, ce qui fait la différence, c'est la capacité à l'essence de produire des grains fins selon la station et la sylviculture appliquée, et donc après de pouvoir les scier correctement de quart ou de les trancher. L'épicéa commun a un bois plus dense que l'épicéa de Sitka. À 12% d'humidité, cela donne 450 kg par mètre cube pour le commun, contre 350 à 400 kg le mètre cube pour le Sitka. Après, on tire de l'épicéa commun et de l'épicéa de Sitka les mêmes produits car ils sont classifiés comme bois blanc, donc charpente, emballage, palette et trituration pour papier ou panneau. Par contre, n'allez pas dire à un sanglier, ceux qui fabriquent les sangles pour le fromage délicieux du Haut-Doubs, Mont-d'Or, que vous tirerez des sangles en épicéa de Sitka. Elles sont exclusivement fabriquées en épicéa commun.
Et donc au niveau des maladies et des ravageurs, donc j'imagine que tu vas forcément nous parler du scolyte et du réchauffement climatique. On entend une vraie hécatombe sur les épicéas depuis environ une dizaine d'années.
Oui, tout à fait, Maëline. Et là, il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre l'épicéa commun et le Sitka. Unis face à l'adversité, c'est commun et Sitka, même combat. Le dendroctone ou ilésine géant de l'épicéa est un scolyte ravageur. Il se délecte aussi bien sur l'un que sur l'autre et a engendré la mise à terre d'environ 10 millions de mètres cubes de bois depuis 2018. Pour 2023, le département de santé des forêts, DSF, indique que, je cite, « les mortalités sont plus faibles que les années précédentes car les surfaces de pessières sous 600 mètres sont beaucoup plus restreintes aujourd'hui. La sortie d'hivernation des scolytes a été plutôt tardive cette année et le développement de la première génération a été retardé par rapport aux années précédentes à la faveur d'un printemps plus frais. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que le scolyte. En ce moment, on travaille dans une coupe sur le Mont Bessou pour l'ONF, supervisée par François, que tout le monde connaît maintenant. Et sur cette parcelle, tous les épicéas de Sitka sont morts depuis 2-3 ans. Et on peut dire en fait que le stress hydrique dû au réchauffement climatique, ainsi que la prolifération d'une autre maladie appelée FOMES, a largement participé au déclin de ce peuplement. Et c'est la raison de cette sénescence observée sur 90% des peuplements du plateau qui présentent ces signes avant-coureurs de dépérissement. Car avant même de parler du scolyte, n'oublions pas que les peuplements d'épicéas locaux ont été très fortement impactés par le FOMES depuis les années 50. Ce champignon profite de la monospécificité des peuplements pour se propager par les racines et faire mourir par îlot entier, donc on appelle ça la maladie du rond, les arbres. Quand on coupe l'arbre, le bois est plus ou moins pourri selon qu'on ait attendu de le couper ou pas. Et pour ma part, en tant que bûcheron, je recommande de désinfecter les outils de coupe pour limiter la transmission des spores aux autres arbres.
Alors si je comprends bien, c'est donc risqué de reboiser des épicéas aujourd'hui ?
Oui, en ce moment, les épicéas sur le plateau de Mille Vaches n'ont pas forcément le vent en poupe. Hein. Aujourd'hui, il paraît fou de prévoir un reboisement en épicéas sur le plateau de Mille Vaches. Par contre, on en voit encore en Bretagne, et l'autre jour, je regardais un reportage Géo, où apparemment on ne voit plus que ça chez nos amis irlandais, qui connaissent actuellement le même sort que les habitants du plateau de Mille Vaches des années 50. Une grande vague verte d'épicéas de Sitka déferle en ce moment même sur les Lann et Moyne, pour le bonheur des investisseurs et le malheur de ceux et celles qui cherchent à préserver les paysages et écosystèmes qui marquent l'identité forte de l'Irlande.
D'accord. Alors, comment ça, on n'en verra bientôt plus chez nous, les beaux et grands épicéas, qu'ils soient communs en Sitka, c'est bien
et
ça?
Eh bien, ouais. Alors, pour conclure, Maëline, eh bien, c'est sûr que malheureusement, si on ne prête à ces essences qu'une seule valeur économique, les futures générations du plateau de Mille Vaches ne verront plus autant d'épicéas que nous. Le journal La Montagne sortait un article en 2022 énonçant qu'à l'horizon 2070, la majeure partie des épicéas serait condamnée. Mais si nous prêtons attention aux symboles et traditions, peut-être pourrons-nous encore continuer à cultiver les épicéas seuls à côté des granges pour éloigner le mauvais œil du bétail ou bien encore en peuplement où l'épicéa devient arbre de renaissance et de fécondité et dont les branches appliquées sur les jeunes femmes éloignaient jadis apparemment le spectre de la stérilité. Habitant également... la dame verte, également, hein, il y a une habitante dans l'épicéa, et ça c'est selon les superstitions, les anciennes croyances, la dame verte, une entité protectrice qui habite dans les épicéas. Et cette dame verte, eh bien, elle protège les êtres faibles et punit tous ceux qui se livrent à de mauvaises actions. Enfin, pour les plus gourmands d'entre nous et d'entre vous, rien ne pourra vous empêcher de concocter la délicieuse confiture d'épicéa ou du sirop avec les jeunes pousses tendres du printemps prochain.
Ça a l'air très bon. Il aurait fallu nous donner la recette.
Ouais, bah, je vais essayer de vous en faire pour la prochaine fois.
Ah, super. On espère. Hein.
Ouais, j'espère.
Pas de promesses
aussi.
En l'air. Hein. Merci Lionel pour cette 22e chronique. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait, ouais, avec espoir. Et donc, bah, je vous propose pour finir cette chronique, toujours en musique... forcément on parle d'épicéas, donc on va écouter un peu le son qui provient des épicéas et notamment des violons et violoncelles. Donc je vous propose d'écouter un grand violoniste que j'adore et un petit d'ailleurs une petite dédicace à mes parents qui m'avaient emmené quand j'étais plus jeune aller le voir en concert. C'est Maxime Vangerhoff qui joue le Kreisler Schönromarin.